Midi au mitard, l'émission qui donne de la voix pour que la prison ne soit plus une zone passée sous silence. Tous les premiers dimanches du mois, à partir de midi, sur Prune 92 FM et en podcast sur le www.prune.net. Il est un thème qui anime le débat politique depuis des années en France, particulièrement dans un contexte préélectoral. Le phénomène migratoire n'est dans beaucoup d'esprits étatiques rien d'autre qu'une crise qu'il faut chercher à contrôler, tant il serait synonyme de danger pour les sociétés occidentales. Crise migratoire, oui, mais pour qui exactement? Qui dans cette histoire souffre le plus de cette situation, de nous, citoyens français disposant de la supposée bonne carte d'identité, ou des personnes qui arrivent sur le sol européen, fuyant les conflits ou la précarité, à la recherche d'un refuge? C'est de l'autre côté de la barrière que nous vous proposons d'aller aujourd'hui dans Midi au Mitard, votre émission de critique carcérale avec toute l'équipe. J'ai nommé Magali, Mathieu, Minata, Aurélie et Myriam. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Pour commencer, Clémentine mettra en voix la parole de personnes concernées. Elle nous écrit de Dunkerque. Et comme d'habitude, vous entendrez notre revue de presse présentée par toi, Magali. Et tu nous as également préparé une chronique juridique où tu parles de tests PCR réalisés en centre de
rétention, administrative.
En parlant de prison, Mathieu, tu nous parleras de surreprésentation de la population issue de migration dans les centres pénitentiaires. Nous t'écouterons tout à l'heure. Et ta chronique sera suivie par le témoignage de personnes incarcérées dans le CRA de Vincennes, parole dénonçant des conditions de détention scandaleuses et inhumaines et recueillies par l'émission anticarcérale L'Envolée du 19 novembre dernier. Et en parlant de ça, nous vous invitons à consulter notre émission sur le sujet de la dignité en prison que nous avons réalisée l'année dernière. Elle est en podcast sur le site de Prune, rubrique Midi au Mitard. Minata, Aurélie et Mariam, vous êtes de nouveau allés à la rencontre des Nantaises et des Nantais. Peut-on avoir une idée des questions que vous avez abordées avec les habitants?
Oui, alors cette fois-ci, on leur a posé des questions sur le rapport entre l'immigration, le racisme et les chances de se retrouver en prison.
Voilà. Et ensuite, avec nos chroniques, on va essayer d'y répondre parce que c'est super intéressant et d'étudier ça plus en profondeur parce qu'il y a plein de thématiques qui sont liées, je pense. Et bien sûr, aller un petit peu plus loin dans la réflexion.
En proposant vos analyses. Vous avez le programme de cette émission qui parlera de migration et de prison et je vous propose de commencer en trombe avec la chronique Culture Talk de Clem qui se transforme en recueil de paroles de personnes concernées. On écoute ça tout de suite dans Midi au Mitard.
Bonjour tout le monde, c'est quoi la différence entre une prison et une prison? En France, nous avons des subtilités à créer des mots, des concepts qui créent des différences, mais la finalité de l'enfermement et les réalités pour les personnes concernées sont somme toute bien similaires. Aujourd'hui, dans l'émission Migration et prison, je vais vous parler de ce qu'est la double peine et vous lire un message d'une personne qui la vit. En France, on peut enfermer quelqu'un simplement du fait que la personne est étrangère, on appelle ça la rétention administrative. Les personnes sont enfermées dans des centres de rétention, donc appelés CRA, et là-dedans, on décide si les personnes peuvent être expulsées du territoire ou non, du seul fait qu'elles soient en situation irrégulière, comme si c'était en soi quelque chose de répréhensible que de ne pas avoir de papier en règle, comme si pour l'État français, ce n'était pas une possibilité de régulariser la situation des personnes. Plutôt que de perdre tellement de temps et d'argent à trier, enfermer, expulser les personnes dites étrangères. Parfois, ces personnes étrangères sont présentes sur le sol français depuis plus de 20 ans, ou travaillent depuis des années en France, ou parfois, ces personnes devraient pouvoir demander l'asile, ou pouvoir bénéficier des dispositions du regroupement familial. Il suffirait de leur permettre de se régulariser, de fait. Mais non. C'est tellement devenu répréhensible d'être sans papier que des mouvements entre centres de rétention et prison, ou entre prison et centres de rétention, sont devenus quasiment systématiques. D'autres que moi en parleront dans l'émission, notamment autour des tests PCR refusés par les personnes en CRA, qui les mènent à une peine de prison et à une incarcération dans une maison d'arrêt. Après cette introduction... Je vais vous lire un bout de correspondance d'une femme enfermée au Baumettre, récupérée sur le site de L'Envolée, qu'elle a publié le 1er novembre 2021. J'ai l'impression d'être un oiseau en cage. J nous écrit des Baumettes pour continuer l'échange sur les allers-retours CRA-prison et sur l'acharnement des préfectures et des juges contre les personnes étrangères. Centre pénitentiaire des Baumettes, maison d'arrêt des femmes, octobre 2021. Salut L'Envolée, comment ça va? Je vais essayer d'écouter l'émission, mais 23h c'est trop tard. MDR, à cette heure-là, je vais être déjà évanouie dans mon lit. Mon ex-codétenue, chaque semaine, je lui parle. Elle va très bien, et maintenant, elle n'a plus besoin de signer tous les jours au commissariat. Avant-hier, elle m'a envoyé un colis plein de photos de ma famille et de mes amis. J'étais tellement contente. Je suis toujours à la maison d'arrêt pour femmes. J'ai déjà écrit au chef pour aller au centre de détention. J'ai déjà fait mon dossier d'orientation avec ma SPIP, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. J'aurai le résultat de l'OFPRA au bout de 15 jours. D'abord, ils écouteront mes motivations pour vouloir rester en France, et ensuite, dans les 15 jours, ils m'enverront une réponse. Le 22 novembre, c'est une audience à Aix-en-Provence pour faire appel contre l'interdiction du territoire français. Mais la demande d'asile a plus de poids que l'interdiction du territoire français. Donc si l'OFPRA accepte ma demande, ils sont obligés de retirer l'interdiction du territoire français. Ils ont eu la capacité de retirer la fleur séchée que tu m'as envoyée. Je suis dégoûtée. Merci beaucoup de m'avoir expliqué les vices de procédure lors du transfert prison CRA. Et j'aimerais bien votre contact si je vais au CRA. Les brouilleurs sont toujours allumés. Avec les fenêtres, j'ai l'impression d'être un oiseau en cage. En fait, je crois que l'oiseau a encore plus d'air et de ventilation que nous n'avons ici. Bisous. Si ce témoignage vous a perdu dans les multiples audiences et rendez-vous que la personne doit vivre pendant son incarcération en maison d'arrêt, c'est normal. C'est ça qu'on appelle la double peine. La personne, en tant que personne étrangère, a une interdiction d'être sur le territoire français, une ITF. Elle conteste cette interdiction en justice pendant le temps de son incarcération. Sinon, c'est directement le centre de rétention administrative et la potentielle expulsion du territoire à la sortie de la prison. Elle est aussi éligible à l'asile, donc elle va avoir son entretien avec l'OFPRA pour obtenir son statut de réfugié. Le statut de réfugié, qui est un statut protecteur accordé par la France, permettra d'annuler de fait l'interdiction du territoire. Cette femme, elle est aussi détenue classique et elle doit vivre l'incarcération avec des rendez-vous avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour préparer sa sortie. Elle doit aussi vivre les conditions d'incarcération classiques et dégueulasses, comme toujours. Elle nous parle de brouilleurs autour de sa cellule qui l'empêche de pouvoir téléphoner. Elle parle des joies de recevoir un colis, une lettre en prison, d'avoir un contact vers l'extérieur. Elle parle aussi de la censure. L'envolée a envoyé une fleur séchée et l'administration pénitentiaire l'a retirée de la lettre. Alors parmi tout ça, elle se sent comme un oiseau en cage. Une double peine, une double cage. Donc bon courage et plein de pensées à elle et à toutes les autres personnes concernées.
Merci beaucoup à toi Clem pour cette lecture de parole de concernées, personnes que nous essayons de représenter dans cette émission en diffusant leur voix. Et en parlant de voix, je vous propose cette fois-ci d'écouter celle des Nantaises et des Nantais que vous êtes allés recueillir dans la rue Minata, Aurélie et Mariem dans votre micro-trottoir. C'est à vous.
C'est ça. Donc cette fois-ci, on est allé poser des questions sur les liens possibles entre les questions de race et la prison. Et on est tombé majoritairement sur des jeunes venant de milieux sociaux différents. Donc c'était assez intéressant parce qu'on a eu des types de réponses assez différents. Nos questions étaient quand même assez ciblées et assez complexes. Et elles pouvaient avoir l'air comme ça, assez éloignées les unes des autres. Mais le but était quand même de brosser un tableau assez complet des différents aspects en fait, de la question. Et voilà. Et aussi toutes nos excuses aux deux dernières personnes qu'on a interrogées, qui ne pourront pas s'entendre malheureusement parce qu'on a eu un petit problème technique qui fait qu'on a perdu leur réponse. Voilà. Donc la première question était de savoir si les origines d'une personne peuvent jouer sur ses risques d'être interpellées par la police.
Ah bah oui, carrément. Carrément. Bah en France, bien sûr. Je pense que oui, les flics, c'est la politique du faciès. Soit babos pour le shit, soit immigré. Peut-être d'immigré et hop, ça prend.
Bah énormément. Clairement, le déni de faciès, enfin pour moi c'est pas, pardon, je dis ça comme si c'était évident, mais en fait c'est, pour moi j'ai l'impression que c'est clairement pas un mythe, au contraire, et que c'est super réel. Et qu'en fonction de ta couleur de peau, si t'es racisé ou pas, tu vas te faire beaucoup plus arrêter par les keufs, en fait. Enfin, de mes amis racisés, en tout cas, des témoignages que j'ai eus, c'est le cas, en tout cas.
Bah ouais, j'ai peur que oui. Après, moi, je suis pas... Comment dire ? Moi, je suis blanc, donc je suis pas le premier à subir ces trucs-là. Par contre, de mon point de vue, de ce que je regarde au niveau de mes potes et tout, ouais, j'ai bien peur qu'en effet... tu te fasses plus facilement contrôler quand t'as pas une tête de bon gaulois, quoi, tu vois. Ouais, ouais, j'ai cette impression-là.
Moi, je dirais que, étant un bonhomme blanc, je me fais pas si souvent arrêter.
Ça dépend, je pense, de la mentalité de la police locale. Il y en a certains qui ont des a priori, qui font des préjugés, ils voient un homme noir, ils disent « Ah, c'est dracaille, machin ». Ça devrait pas jouer, c'est juste que ça dépend du regard de la personne qui interpelle, je pense.
C'est ça. Après, au niveau des faits, au niveau de ce qui se passe, moi, comme j'ai beaucoup travaillé dans la rue nantaise, bah, je vois bien le genre de gens qui se fait interpeller facilement. Et c'est vrai que, voilà, je pense qu'il y a une relation dans la tête de pas mal de gens. Je pense que c'est quelque chose qui, bah, qu'on comprend, enfin, qui est dans la pensée collective, quoi. Tout le monde sait qu'il y a une espèce de lien avec ça.
Bah oui, hein. C'est-à-dire... Parce qu'il y a des policiers, ils sont pas réglo dans leur métier. C'est sûr que ça peut arriver des trucs comme ça, mais perso j'ai jamais vraiment vu ça comme ça de mes yeux, des gens se faire interpeller à cause de leurs origines. En vrai je savais pas vraiment. J'ai déjà vu des gens se faire interpeller, mais au final on sait jamais vraiment pourquoi.
En vrai oui c'est sûr. Hein.
c'est sûr qu'il y a un rôle comme ça. Mais après, ça doit dépendre des endroits. Par exemple, dans la campagne, il doit y avoir des policiers réglos, peut-être. Hein. Mais c'est vrai que sur Nantes, il y a beaucoup de policiers, ils ne sont pas réglos.
Il y a l'origine, cause pour laquelle j'ai répondu à sa question. Il y a l'origine. Parce que parfois, tu peux faire quelque chose, on voit que toi, tu es de là, tu vois, on laisse tomber. Mais le fait que tu es en... Je ne veux même pas parler de ça, noir comme moi ou bien d'autres choses comme ça, tu vois. Il peut forcer le truc pour te mettre dedans. Comme il n'habite pas ici, il n'a pas la famille ici, on va le forcer. On le met dans les carcelles, tu vois. Ta famille même ne sait pas que comment tu vas, tu vois. C'est un peu chiant, hein, alors que nous sommes tous pareils.
La seconde question était de savoir si certaines ethnicités étaient plus présentes que d'autres dans le milieu carcéral.
Je connais pas tellement la population carcérale, mais je dirais oui. Oui, forcément, il y a des populations qui sont majoritaires. C'est un mot très très fort, mais la ghettoisation de la France, on laisse bien dans les banlieues la misère et puis on n'y va pas trop, quoi.
Je pense pas qu'il y ait plus de gens d'une origine particulière. Ça voudrait dire qu'il y ait des gens d'une certaine origine qui sont plus des délinquants, tu vois.
Ou alors ça voudrait dire que la justice s'intéresse plus à certaines
ah
couleurs
oui,
de peau. Et ça, c'est
oui,
pas
c'est
impossible.
Vrai.
Moi, j'ai peur qu'il y ait une majorité de personnes racisées en prison, malheureusement.
Moi, je pense pas forcément, puisque je dirais que bah, tout le monde peut péter un câble, tout le monde est fou, tout le monde a son truc à sortir. Je pense pas qu'il y ait plus de mecs qui fassent de la merde, qui soient... Bah, on est tous humains, quoi, donc...
Je pense qu'il n'y a pas d'origine en fait, à cette violence,
quoi,
à part que l'espèce humaine.
Ça
dépend des gens, de leur passé, de, voilà, de leurs problèmes. Il n'y a pas de barrière, on va dire.
Après, s'il y a plus de, admettons, s'il y a plus de communautés ethniques qui se font arrêter, bah, je pense que du coup, il y en a forcément bah, une relation avec le nombre de gens qui est en prison.
Je pense pas qu'il y ait du racisme en prison. Des trucs comme
il y a
ça.
Tout en prison. Il y a
Ils se trouvent là-bas pour rien. Comme je viens de dire tout à l'heure, il y a des gens, beaucoup, beaucoup même, de couleur. Moi, je dis ça, question de couleur. Que je, ce que je veux te faire comprendre, tu vois, parce qu'il peut arrêter ici en blanc, avec deux grammes, il le laisse. Je sais, avec moi, il vient, il me dit, tes papiers, par exemple. Je dis, j'ai pas de papiers. Donc forcément, il sait que j'habite pas ici. Ils vont me faire chier, tu vois. C'est un peu chien. La question de couleur, hein. En Espagne, que j'ai vécu, je ne sais pas comme ici en France, mais j'ai trouvé des amis qu'on a arrêtés avec des trucs bizarres, tu vois. Juste en juin ou bien deux juin, on t'arrête, on te met à la prison, tu vois. C'est pas la peine, au moins pour dire vrai. Hein.
La dernière question était la suivante. Imaginez-vous un traitement différent envers les personnes racisées ou issues de l'immigration au sein du milieu carcéral?
Ça, je peux pas m'avancer. Ça, je sais pas du tout. Je connais pas assez la prison pour ça.
Mal. Je pense que le racisme, c'est pas que dans la rue et c'est pas que dans la société que nous, on connaît en tant que personnes qui ne sont pas enfermées et que c'est aussi existant dans les prisons en France. Et que les matons, enfin les gardiens de prison ne doivent pas être très tendres avec certains et certaines prisonnières.
J'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question-là, je suis jamais allé en prison.
Moi j'aimerais bien que ce soit équitable. Je pense que c'est trop demandé à certaines personnes.
Je connais pas très bien ce milieu-là, mais je m'imagine que les personnes qui sont issues de l'immigration sont pas forcément aussi bien traitées à cause des barrières familiales. Parce que nous, par exemple, quelqu'un qui est né en France, qui a sa famille en France, qui a ses ancêtres en France, etc., machin, bah, s'il y a une injustice, il a toute sa famille derrière, tous ses amis, tous ses proches pour le soutenir et ça peut potentiellement faire pression avec les médias, ce genre de choses. Alors que quand c'est une personne émigrée, souvent c'est des gens, ils viennent, ils partent à l'aventure, ils sont tout seuls, ils n'ont pas forcément de gens derrière pour les backups et il peut y avoir des abus, je pense, à cause de ça. Parce que du coup, ça peut être plus facilement étouffé sous le tapis s'il y a des abus et ouais. C'est dommage.
De jouer sur des mots, de jouer sur des incompréhensions pour pouvoir arriver à ses fins.
Mais oui, ils sont traités différemment. Mais c'est partout. Le racisme, c'est partout.
Pour conclure, donc on voit bien à travers toutes ces réponses que ce sont évidemment des questions qui soulèvent tout un ensemble d'idées et pas forcément faciles, mais elles sont communes et soulèvent aussi une certaine obscurité. On ne connaît pas bien en fait toutes les réalités de la prison, bien sûr. Et avec tout ça, on voit qu'il est commun de comprendre que le racisme est présent à différents niveaux de la société, que ça affecte aussi le milieu carcéral. On va essayer avec nos chroniques de donner des réponses à tout ça et de nuancer nos propos aussi. Est-ce que les filles, vous avez des petits ressentis suite au micro-trottoir.
On ressentait que les personnes n'osaient pas forcément aborder les sujets parce que tout simplement c'est un terrain glissant et que clairement aussi le milieu carcéral c'est un peu une face cachée, on en entend parler vite fait mais on ne sait pas la réalité qu'il y a derrière.
Ouais, c'est ça, il y avait un peu cette idée que les gens connaissaient pas mal en fait les questions de racisme et du coup les interpellations, etc., les questions de délit de faciès et tout, c'était assez rapide. Mais par contre, vraiment, ce qui se passe en prison et les proportions de personnes, c'était vraiment très peu connu, quoi. Du coup, c'était assez intéressant de voir ça.
Yes, carrément. Et du coup, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des gens qui faisaient le lien directement entre ces trois questions. Donc, ce qu'on va essayer un peu d'expliciter ensuite. Ça changeait leur interprétation. Et à l'inverse, il y en avait qui ne faisaient pas du tout le lien. Et donc, il y avait aussi une interprétation différente des questions. C'était assez intéressant à observer de l'extérieur ensuite.
Eh bien, merci beaucoup pour ce micro-trottoir à haute diversité sociale, Minata, Mariem et Aurélie, qui donnaient la voix aux Nantaises et aux Nantais sur ces questions épineuses liées à la détention. Et avant de poursuivre avec votre analyse, on vous laisse quelques instants avec les Berruriers Noirs. Restez avec nous.
Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'algérien, salut à toi le tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud et allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le nigeria, salut à toi le gaboni, salut à toi le vieux ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Chotokan, salut à toi peuple canac, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les morocons, salut à toi le yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le salvador, salut à toi le monodoy, salut à toi le chinois, salut à toi le zaïrois, salut à toi l'espagnol, salut à toi le ravachol, salut à toi le hongrois, salut à toi l'iroquois, salut aussi à tous les gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Crésor, salut à toi la vache qui rit, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawas, salut à toutes les Vertigones, salut aussi à Yul Brynner, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier. Salut à toi l'endimanché, salut à tous les
Mitard, l'émission qui écarte les barreaux.
Sur Prune 92 FM et sur le www.prune.net.
C'était Salut à toi, un classique des Barrières Noires dans Midi au Mitard, votre émission d'actualité carcérale sur Prune. Les personnes racisées ont-elles plus de chances d'être interpellées ? Qu'en est-il de leur représentation en prison ? Après les avoir posées à l'occasion de notre micro-trottoir, nous proposons notre analyse sur ces questions avec Minata, Mariam et Aurélie. Et nous commençons avec toi, Minata.
Oui, alors je vous propose aujourd'hui un sujet qui interroge dans différentes directions. Et pour commencer, j'ai voulu trouver des réponses à notre première question du micro-trottoir qui était « Est-ce que les origines d'une personne peuvent jouer sur ses risques d'être interpellées par la police ?» Je me suis basée sur l'étude du défenseur des droits de Jacques Toubon, qui date un peu puisqu'elle est de 2017, mais dont finalement les conclusions semblent malheureusement être toujours d'actualité. L'étude a confirmé que les contrôles d'identité effectués par les policiers se fondent principalement sur l'apparence, non pas sur ce que les gens font, je cite, mais sur ce qu'ils sont ou paraissent être. Les personnes perçues comme noires et les personnes perçues comme arabes ont été contrôlées de manière disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme blanches, entre guillemets. Je cite par exemple, pour les perçus arabes, ils ont été généralement plus de 7 fois plus susceptibles que les blancs d'être contrôlés. Cette étude témoigne bien du délit de faciès dans nos rues, par les forces de police ou encore par la douane. Il faut dire que le style vestimentaire associé à différentes « cultures jeunes » entre guillemets et l'âge des personnes entre 18 et 25 ans ajoute un poids au risque de contrôle, voire d'interpellation. Comme l'explique très bien Abdelmalik dans le texte suivant qu'on retrouve dans son livre « Le dernier français » tiré de la chanson « HLM Tango », c'est dans le regard de l'autre finalement qu'on devient soi.
On est prêt, voire plus de 60 millions, mais on ne voit que soi. Alors que c'est dans le regard de l'autre, finalement, qu'on devient soi. Je suis le gars de Tess, le mec de banlieue, qu'aurait pu finir shooté à l'héroïne, pendu dans une cellule ou rempli de colère, salissant la belle religion qu'est l'islam, en ne pensant qu'à détruire. Mais les yeux de quelqu'un m'ont dit un jour que tout ça, ce n'était pas moi. Et alors seulement, à ce moment-là, j'ai pu devenir l'homme que tu vois. Mais si tu dis sans cesse de nous qu'on n'est pas chez nous, qu'on n'est pas comme toi, alors pourquoi tu t'étonnes quand certains agissent comme s'ils étaient pas chez eux, comme s'ils étaient pas comme toi? Et ce noir ou ce rebeu que tu croises dans la rue, quel regard lui portes-tu? Parce que c'est ce regard qui va déterminer chaque lendemain de son existence et de la tienne aussi. Parce qu'être français sur le papier ne suffit pas si dans tes attitudes il n'y a pas la même reconnaissance aussi. Le temps presse et c'est par peindre les murs qu'il faut, mais mettre la lumière dans les airs.
Ce que je note aussi, c'est qu'en fait, les gens plus ou moins typés physiquement, les gens de couleur ou non d'ailleurs, ne connaissent pas l'immigration comme le croit la pensée collective, mais bien le racisme. La différence est bien à faire entre personnes issues de l'immigration directe et personnes avec des héritages de couleur, par exemple, mais de générations très lointaines. Car bien qu'on puisse le remarquer, à l'inverse de quelqu'un dont les lointaines origines blanches sont par exemple italiennes ou encore australiennes, tous ces gens sont français. On a bien affaire à une perception biaisée de tous les côtés, que ce soit pour les migrants, définis par l'UNESCO comme « toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays », ou bien une personne racisée mais bien française. Finalement, le terme « issu de l'immigration » ne veut plus dire grand-chose. Les vécus et les situations sont très différentes. Pourtant, ils sont mis dans la même case, pardon, de potentiels voyous, sans aucune raison. Malheureusement, le racisme continue au-delà des forces de police, puisque les stéréotypes sont dans toutes nos têtes, même quand on ne pense pas faire de différence entre les gens. Pour remettre ce sujet un peu plus d'actualité, en fait, la semaine dernière, des milliers de magistrats ont signé une pétition afin de dénoncer la justice du chiffre, à laquelle ils sont confrontés quotidiennement. Ils ont en fait généralement 7 minutes pour traiter une situation complexe et prendre la bonne décision sans même avoir le temps de vraiment y réfléchir. L'émission est à retrouver sur France Inter et c'est exactement là qu'on voit que même au cœur de la justice, ces personnes sont presque obligées ou dédiées à utiliser leurs idées reçues pour juger malheureusement. L'intégration donc de stéréotypes est inévitable et nos réactions quotidiennes en sont induites. Pour continuer, concernant la dernière question du micro-trottoir, effectivement, dans les prisons, c'est la même chose. Les étrangers reçoivent un traitement différent. Par exemple, pour ceux qui viennent d'arriver en France et connaissent pas forcément le français ou très mal, on peut voir un traitement différent puisque une demande écrite est toujours requise pour voir un médecin, rencontrer un travailleur social, un visiteur, cantiner, un peu pour tout. Et donc ça leur met un poids en plus. Dans ces conditions d'infériorité, en fait, les détenus étrangers qui ne passent le plus souvent que quelques mois dans nos maisons d'arrêt sont ceux dont les droits sont les moins respectés. Parqués dans des quartiers ethniques, comme à la santé, regroupés indistinctement entre prévenus et condamnés, peu à se révolter, ils sont en fait les premiers à être entassés dans les cellules les plus dégradées en cas de surpopulation conjoncturelle ou structurelle, je cite. Pour en revenir à notre micro-trottoir et à mes lectures, je me suis demandé ensuite, tout comme le reste de l'équipe je pense, d'où partait le problème. Est-ce que le racisme, le délit de faciès se poursuit dans le milieu carcéral ou encore est-ce que le déterminisme des banlieues va jusqu'à la prison? Comment fonctionne le cercle vicieux de la ghettoisation? Grâce au livre « Le dernier français » et « Qu'Allah bénisse la France », tant poétique que cru d'Abdelmalik, l'homme aux multiples casquettes puisqu'il est tant écrivain que rappeur, ou encore réalisateur, on lit une France vraie, avec bien sûr des défauts, dont les banlieues sont ici les premières victimes, mais avec aussi des possibilités et de l'espoir. C'est en décrivant si justement son vécu dans son quartier de Strasbourg, le Neuf, qu'il témoigne de la désintégration et d'une sorte d'enfermement de par le manque de contact avec le reste de la société, l'exclusion, le manque de culture. Il évoque les dangers du cercle vicieux de la cité, mais encore plus de ceux de la politique et des médias. Il encourage aussi une conversion de nos regards pour une culture moderne vraiment mixte, constituée d'identités de langue et non de l'apparence. C'est comme il le dit si bien, l'histoire qui se crée pour demain. Il note le manque de modèles pour les jeunes de banlieue, bien qu'il soit la preuve vivante de la réussite grâce à la culture, mais il explique aussi qu'il aurait pu très mal tourner puisque la criminalité est la première porte qui s'ouvre aux jeunes dans ces quartiers diabolisés et presque déséduqués. Le déterminisme des quartiers rend plus difficile pratiquement toute la vie de ses habitants, évidemment. Un exemple concret, c'est le recrutement professionnel. Les personnes venant de zones reculées sont automatiquement discriminées. Ils ont moins de chances d'être recrutés, voire de faire des études, et donc de travailler et s'intégrer à la société. Cette non-insertion économique pèse sur l'ensemble du processus d'intégration sociale et d'entrée dans la vie d'adulte en ce qui concerne les jeunes. On peut même parler de déshumanisation dans certains cas du fait de cette énorme différence qui est faite par tous. On retrouve dans le livre Bunker de Rachid Jahadani aussi un jeune qui essaye de s'en sortir, qui n'a pas choisi de grandir là mais qui est restreint en quelque sorte et qui se retrouve dans des galères malgré lui. Il devient complice d'un crime qui l'emmènera indirectement dans l'univers du milieu carcéral. On note alors un traitement différent entre les personnes incarcérées qui se poursuit bien au niveau du comportement des matons envers les détenus, qui n'ont pas tous la même apparence évidemment. Donc je vous invite à lire ces livres qui dessinent tous les deux un portrait bien réel et précis, puisque vécu dans la vie en banlieue qui peut aller jusqu'à la prison. Sur la quatrième de couverture et en préface, on retrouve une citation du fameux groupe Suprême NTM qui résume bien cette situation. Je la lis tout de suite. Où sont nos repères? Qui sont nos modèles? De toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Mais aujourd'hui, cette jeunesse se crée ses propres repères, sa propre culture. Le décalage des premières heures devient un fossé qu'il sera difficile de combler. Pour conclure, de la rue en passant par la banlieue jusqu'à la prison, on retrouve les mêmes éléments qui forment le cercle vicieux. Le milieu carcéral est donc un reflet de la société, on y retrouve une injuste différence de traitement amplifiée par le racisme. Un élément de plus qui complique la vie en détention. Et pour encore une fois conclure, je ne résiste pas à vous citer une phrase d'Abdelmalik, la suivante. Dans mon dictionnaire ainsi réécrit, le mot « intégration » par exemple signifierait « capacité qu'a l'esprit français de se nourrir positivement de sa diversité pour se réinventer, pour recréer sa singularité. À méditer. Mariem, je te laisse continuer sur la ghettoisation. Merci.
Ben, merci à toi. Et oui, du coup, j'ai parlé de la ghettoisation des banlieues, de pourquoi on utilise ce terme pour décrire ce phénomène de marginalisation que subissent celles-ci vis-à-vis du reste de la société. Donc, en premier lieu, nous devons en venir au commencement des banlieues, à leur genèse, comment sont-elles apparues en France et qu'est-ce que la ghettoisation ? Donc, on parle de ghettoisation lorsqu'on distingue un groupe d'un autre en le mettant à part. Ici, l'écart est tout d'abord géographique, mais il va s'étendre sur une rive plus sociale. Donc, durant la période prospère des Trente Glorieuses, la France a fait venir, principalement de ses anciennes colonies, des travailleurs et elle les a logés dans des HLM en périphérie des centres. C'est à partir de ce moment-là que la ghettoisation a débuté, mais c'est particulièrement à la chute des Trente Glorieuses qu'elle a réellement posé problème. Tout le monde a été touché par la crise, certes, mais surtout les populations les plus modestes, comme celles présentes dans les banlieues. Tous les sacrifices qu'ont pu faire ces personnes issues de l'immigration pour venir en France, tous leurs espoirs deviennent peu à peu des désillusions. Et malgré quelques tentatives de l'État pour permettre aux banlieues de se développer, ou du moins de ne pas encore plus se marginaliser du reste de la société, celles-ci sont loin d'être suffisantes. Ce sentiment d'exclusion grandit dans ces zones urbaines dites sensibles, que l'État n'arrive pas à valoriser, à intégrer, voire qu'il délaisse peu à peu. Au lieu de trouver des solutions concrètes pour aider et développer les banlieues, l'État a fait le choix d'utiliser la police pour y montrer ou y imposer sa présence. Mais malheureusement, on remarque surtout que ça n'a fait que accroître ce fossé entre l'État et les banlieues. Comme le dit Hubert dans le film « La haine » de Mathieu Kassovitz, la haine attire la haine et c'est exactement ce qui se passe entre la population banlieusarde et la police. Dès que des violences policières se produisent dans les quartiers ou dans les banlieues, des émeutes font rage, comme par exemple pendant la funeste affaire de Zied, 17 ans, et Bouna, 15 ans, mort électrocuté après une course-poursuite avec la police en octobre 2005. Une fracture s'est créée entre l'État et la banlieue, si bien que la banlieue va être diabolisée aux yeux de l'opinion publique à travers les termes utilisés par certains journalistes. Ils vont parler de ces émeutes comme étant une représentation de l'ensauvagement des banlieues. Mais pourquoi utilisent-ils ce terme pour décrire les affrontements entre la police et les banlieusards, alors que dans le cas des Gilets jaunes, les émeutes étaient une manière pour les Français de montrer leur mécontentement face aux actions de l'État ? Ici, ces journalistes coopèrent à travers leurs articles dans cette mise à l'écart des banlieusards du reste des Français en qualifiant leurs actes de rébellion, d'indignation, comme étant le visage, l'expression de l'ensauvagement des quartiers. Lorsqu'un Français est issu de banlieue et qu'il est en plus de ça issu de l'immigration, son comportement va être qualifié comme semblable à celui d'un animal. Ils sont déshumanisés et leurs actions sont ainsi plus facilement décrédibilisées. N'oublions pas que la population banlieusarde est majoritairement constituée de personnes issues de l'immigration. On peut donc ici soulever un problème de racisme encore ancré dans la société française. Du coup, maintenant, c'est au tour d'Aurélie de poursuivre notre réflexion à Minata, moi-même et elle-même, en abordant le traitement en prison des personnes issues de l'immigration postcoloniale et comment ça reflète leur traitement dans le reste de la société.
Les deuxième et troisième questions du micro-trottoir, portant sur la population carcérale, mais aussi sur les traitements inégaux, semblent particulièrement intéressantes, d'autant plus que les interrogés n'ont pas vraiment su nous répondre. Alors, qu'en est-il vraiment de la répartition ethnique en prison ? Et est-ce que les personnes issues de minorités raciales reçoivent des traitements différents de leurs co-détenus blancs ? Il n'est pas question ici de s'intéresser aux personnes étrangères en prison, c'est-à-dire non françaises, mais bien aux individus français racisés. Étant donné que la France ne veut pas s'adonner aux statistiques ethniques et le fait que le monde carcéral demeure assez opaque, nous ne pouvons malheureusement pas connaître la véritable teneur du phénomène. Toutefois, une chose est avérée. On trouve largement dans les prisons de France les populations stigmatisées et criminalisées. Ceux qui sont perçus comme des éternels suspects ou délinquants. Les jeunes issus de l'immigration postcoloniale. On en a fait écho dans les médias.
du fait que régulièrement, des images de la prison réapparaissent comme étant une poudrière ou bien comme un lieu de radicalisation islamiste. Mais ce qui est intéressant de se demander ici est pourquoi c'en est ainsi. Si la population musulmane en prison est importante, cela est dû à des données démographiques et sociopolitiques. Le passé colonial de la France et sa gestion des populations issues de l'immigration coloniale en dit long. En effet, beaucoup de Français et Françaises sont musulmans, mais aussi leur situation peuvent les rendre plus à même de se retrouver en prison. La stigmatisation, le contrôle au faciès, la répression, dont parlaient Minata et Mariam, l'illustrent bien. S'il y a certes une réelle problématique liée à la présence de l'islamisme radical en prison, il est toutefois minoritaire. Et il est surtout à distinguer de la question des populations musulmanes des prisons, comme certains médias semblent oublier de le faire. S'il faudrait s'inquiéter des discriminations raciales en prison, c'est parce qu'il faut s'inquiéter de ces questions-là dans la société en général. La prison semble fonctionner comme un lieu dans lequel les dynamiques de domination sont exacerbées. On pourrait voir la prison comme un lieu qui ne mimique pas seulement le dehors, mais dans lequel les rapports sont intensifiés, grossis comme sous une loupe. Comme le Génépi le présente dans un communiqué, la prison est un vecteur institutionnel majeur du racisme structurel qui participe à la répression des populations racisées en France. Et l'incarcération de masse rime avec la racialisation des dispositifs carcéraux. Il y aurait un profil type du détenu, selon les résultats de certaines études sociologiques. Un homme jeune, peu qualifié, issu de quartiers populaires et racisé. Le Génépi parle de la prison comme étant une institution raciste qui sert un racisme d'État. On peut prendre l'exemple de la maison d'arrêt de la santé qui avait jusqu'en 2000 trois quartiers distincts. Le quartier blanc, le quartier dit africain et le quartier arabe. Ce dont il est question ici, c'est que dans les faits, cette ethnicisation de la population carcérale nous montre que nous ne sommes pas égaux face au pouvoir judiciaire. C'est ce que l'anthropologue Didier Fassin présente dans son ouvrage « L'ombre du monde ». Il y fait état de son expérience de terrain entre 2009 et 2013 dans une maison d'arrêt de banlieue parisienne dont il ne souhaite pas donner le nom. Il montre que les inégalités face aux institutions de justice mènent à des inégalités dans l'incarcération. Il nous présente la population carcérale comme un sous-prolétariat, des personnes issues de l'immigration précarisées culturellement et économiquement. Le traitement différencié commencerait bien donc dès la surconcentration des contrôles de police dans les quartiers populaires, jusqu'aux inégalités dans les institutions judiciaires. La prison semble donc bien être une institution où les différences de traitement et les rapports de pouvoir se donnent à voir de manière significative. Étant donné les rapports de force qui s'exercent au dehors avec la police, on ne peut qu'imaginer comment se déroulent les relations entre détenus et surveillants. Il est largement rapporté que la prison est un lieu dans lequel les droits sont bafoués et où la force l'emporte. Il est intéressant, pour conclure, de comparer la manière dont les personnes issues de l'immigration sont incarcérées, violentées, tuées, et de l'autre, l'impunité dans laquelle les policiers semblent être. L'exemple de la mort d'Adama Traoré en est très représentatif. La peine de prison subie par son frère, Bagui Traoré, les accusations reçues par sa sœur, Assa Traoré, semblent dénotées face à la liberté des policiers. Ça nous laisse comprendre comment a l'air de fonctionner l'institution judiciaire française.
Merci beaucoup Minata, Aurélie et Mariam pour toutes ces chroniques que vous pourrez réécouter en podcast sur le site de Prune. Vous êtes bien sur Midi au Mitard, on parle prison et migration, et on vous retrouve juste après un morceau d'Abdelmalik. Les Invalides, c'est tout de suite sur Prune.
Et nous, plébéiens, d'à présent anciens égyptiens, nouveaux roturiers bohémiens, en aspirant à la justice, nous n'aspirâmes qu'au statut d'humain. Et nous, demain, vilains d'aujourd'hui, manants d'avant-hier, fils honni par ses propres pères, en aspirant à l'égalité, nous n'aspirâmes qu'au statut d'humain. Et nous, prolétaires en bas de l'échelle alimentaire, animal servile, se rêvant prince de la ville, en aspirant à la fraternité, nous n'aspirâmes qu'au statut d'humain. C'est comme si ma peau finissait jaunie à cause de mon gilet noir. Le malheur ne discrimine point. Te voilà maintenant parlant noir au ciel. Quelle méprisable condition qu'est devenue la mienne. Je ne peux même plus dire à qui que soit que j'erre. Et c'est comme si ma peau finissait jaunie à cause de mon gilet noir. Le malheur ne discrimine point. Te voilà maintenant parlant noir. C'est la vie, c'est la France, c'est le monde, c'est la fronde, la galère. Qui nous pousse à l'extrême, c'est l'enfance qu'on regrette, plus personne dit je t'aime. C'est la vie, c'est la France, c'est le monde, c'est la fronde, la galère. Qui nous pousse à l'extrême, c'est l'enfance qu'on regrette, plus personne dit je t'aime. Et nous, migrants sans papier, anciens Congo, apatrides à nouveau, en aspirant à la justice, nous n'aspirâmes qu'au statut d'humain. Et nous, européens, demain, africains, aujourd'hui, citoyens illicites, couleur de peau anthracite, en aspirant à l'égalité, nous n'aspirâmes qu'au statut d'humain. C'est comme si ma peau finissait jaunie à cause de mon gilet noir. Le malheur ne discrimine point. Te voilà maintenant parlant noir au ciel. Quelle méprisable condition qu'est devenue la mienne. Je ne peux même plus dire à qui que ce soit que j'erre. C'est comme si ma peau finissait jaunie à cause de mon gilet noir. Le malheur ne discrimine point. Te voilà maintenant parlant noir. C'est la vie, c'est la France, c'est le monde, c'est la fronde, la galère. Qui nous pousse à l'extrême, c'est l'enfance qu'on regrette, plus personne dit je t'aime. C'est la vie, c'est la France, c'est le monde, c'est la fronde, la galère. Qui nous pousse à l'extrême, c'est l'enfance qu'on regrette, plus personne dit je t'aime. Et nous, plébéiens d'à présent, anciens égyptiens, nouveaux roturiers bohémiens, en aspirant à la justice, nous n'aspirâmes qu'au statut d'humain. Et nous, demain, vilains d'aujourd'hui, manants d'avant-hier, fils honnis par ses propres pères, en aspirant à l'égalité, nous n'aspirâmes qu'au statut d'humain. C'est comme si ma peau finissait jaunie à cause de mon gilet noir. Le malheur ne discrimine point. Te voilà maintenant parlant noir au ciel. Quelle méprisable condition qu'est devenue la mienne. Je ne peux même plus dire à qui que ce soit que j'erre. C'est comme si ma peau finissait jaunie à cause de mon gilet noir. Le malheur ne discrimine point. Te voilà maintenant parlant noir. Elle ravale ainsi l'écume de sa haine et ne comprenant pas les desseins éternels, elle-même prépare au fond de la géhenne les bûchers consacrés aux crimes maternels. Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil, et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange, retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil.
Midi au mitard, la prison en long, en large et en travers, sur les ondes de Prune 92 FM et sur le www.prune.net.
C'était Les Invalides d'Abdelmalik sur Prune dans Midi au mitard. Et dans cette émission, on vous propose un regard critique. On vous suggère quelques billes à incorporer dans votre réflexion autour du monde de la prison. Et pas de réflexion sans information. C'est pourquoi nous vous proposons un tour d'horizon de l'actu carcérale dans le monde avec toi, Magali. Et on commence la revue de presse avec un petit arrêt en Amérique latine.
Un petit arrêt précisément en Équateur, avec son coup de grâce du président Guillermo Lasso, qui a décidé le lundi 22 novembre de gracier des prisonniers souffrant de maladies graves et des détenus pour infraction routière, afin de réduire la population carcérale, plutôt la surpopulation carcérale dans ce pays, où plus de 300 personnes sont mortes dans des affrontements entre détenus, nous apprend Ouest France l'année dernière. Nous aimons bien donc les bonnes nouvelles comme celle-là.
Et nous continuons avec un chiffre.
Au combien un chiffre, 900, c'est le nombre de feux en cellule qui a été répertorié chaque année par l'administration pénitentiaire. Et derrière ces incendies, malheureusement, il y a des vies perdues. Ces 5 dernières années, au moins 21 personnes ont perdu la vie dans des incendies, nous explique un article de l'Observatoire international des prisons. Cet article souligne le danger de nos prisons qui, bien évidemment, ne sont pas des établissements publics ordinaires. Si le niveau de surveillance est élevé, via les rondes, les miradors et les caméras, l'inaccessibilité des façades complique l'intervention des pompiers et l'impossibilité pour les personnes détenues de se déplacer librement multiplie les risques. Des risques qui sont multipliés également par le manque de formation des surveillants concernant la sécurité incendie et leur manque d'entraînement conjugué aux dysfonctionnements récurrents, en particulier des interphones défaillants pour donner l'alarme. Alors, mes chers amis, il convient désormais de chanter « au feu, la prison qui brûle ».
Et nous poursuivons par une concertation.
Concertez-vous ! Eh bien, puisque la population est invitée à s'exprimer à partir du 6 décembre prochain sur la construction, ou plutôt le projet de construction de la nouvelle prison de Nîmes. Cet établissement de 700 places situé entre Nîmes et Générac sur le site de l'ancienne base Ogvia doit sortir de terre à l'horizon 2027, raconte un article de France Bleu sur son site internet. Gardez cependant à l'esprit que la prison est bien loin de résoudre tous les maux de la société.
Bien au contraire. Et on termine cette revue de presse avec une hausse.
Une hausse et non des moindres. Le nombre de personnes incarcérées dans les prisons a augmenté en octobre pour s'établir à 69,812 000 détenus au 1er novembre, selon les données statistiques du ministère de la Justice. Nous apprend l'article 20 minutes. La densité carcérale dans les 188 établissements pénitentiaires s'établit désormais à 115,4%. Il y a un an, elle était à 102,7%. Parmi les détenus, 19 363, en gros 27,7%, sont des prévenus. Autrement dit, des gens dans l'attente de leur jugement qui sont incarcérés. Le nombre de femmes et de mineurs écroués qui représentent respectivement environ 3,5% et 1% de la population carcérale totale est en revanche stable. À cette conclusion sur la revue de presse et cette augmentation du nombre de détenus, il ne faut encore une fois pas oublier que la France se fait régulièrement condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, je ne cesse de le dire, pour l'état désastreux de ces prisons. Pourtant, on continue à incarcérer dans l'indignité la plus totale des détenus, notamment à cause de la surpopulation carcérale. Enfin, je dis ça, je dis rien.
Merci beaucoup pour cette revue de presse carcérale, Magali, que tu essaieras de nous proposer chaque mois dans Midi au Mitard. Et nous restons avec toi encore quelques instants puisque tu souhaitais mettre la lumière sur un état de fait en détention concernant les tests PCR réalisés en centre de rétention. Je te laisse nous expliquer tout ça.
Je vais vous raconter une petite histoire d'un ping-pong infernal pour les migrants entre eux, le centre de rétention administrative, dit CRA, autrement dit prison des étrangers avant leur expulsion, et la prison. C'est l'histoire de Monsieur K, de nationalité marocaine, qui est enfermé au centre de rétention administrative de Rennes, en attente de son expulsion vers le Maroc. Le Maroc demande à Monsieur K de lui présenter un test PCR négatif avant et pour qu'il puisse accéder à son territoire. Monsieur K décide de refuser ce test au nom de son droit à un consentement libre et éclairé aux soins, car l'acceptation ou le refus d'un test PCR, c'est un acte médical, donc il faut un consentement ou obligatoirement. Or, ce refus, il ne plaît pas beaucoup au ministère de l'Intérieur, qui rappelle aux migrants de ce centre de rétention qu'ils ont la faculté de refuser ce test. Cependant, tout refus de leur part pourrait être assimilé à une soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Après ce refus, Monsieur K, il est donc déféré devant le procureur et il est condamné alors qu'il pouvait refuser. Il est condamné à une peine d'emprisonnement. Il part donc du centre de rétention en prison. Lorsqu'il sort, après son mois de condamnation, il revient au centre de rétention. Et, curieux, il refuse encore le test PCR et il est redéféré devant le parquet et il est re-emprisonné en prison. Un yo-yo entre le centre de rétention et la prison. Précisément, je vais vous parler du délit de soustraction et une mesure d'éloignement. Il est inscrit à l'article 824-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est punissable de 3 ans de prison et de 10 ans d'interdiction du territoire français. Alors vous allez me dire, mais c'est un acte médical, il a le droit de refuser, c'est quand même pas normal. C'est une sanction clairement liberticide et surtout à l'époque sans fondement juridique. C'est exactement la position du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui, je le rappelle, est une autorité indépendante, et elle note justement que ce phénomène implique un surenfermement des étrangers, qui a été aggravé par la crise sanitaire. C'est également la position des avocats en droit des étrangers, avec une petite dédicace au syndicat des avocats de France, dans lequel je fais partie, qui juge que cette pratique est illégale. C'est également la position de la Cour d'appel comme Douai, Nîmes ou Rennes qui ont refusé de confirmer les peines des personnes condamnées en première instance. Et c'est aussi la position des associations comme la CIMAD. Ça s'insurge et là, coup de massue. La loi relative à la crise sanitaire promulguée le 9 août 2021 met un terme au débat, met un terme à cette pratique avant illégale et elle confirme que désormais le refus à un test PCR c'est bien pénalisé et c'est bien un délit de soustraction et une mesure d'éloignement. Mais ce scandale, juridique et politique, a toutefois été confirmé par la Cour de cassation il y a quelques jours. Cette dernière a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau et elle a conclu très précisément que le refus par un étranger de se soumettre à un test de dépistage de la Covid-19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne constituait pas une infraction à l'époque des faits, et surtout avant la promulgation de la loi. Bonjour la France, pays des droits de l'homme, qui condamne sans fondement juridique. Et à côté de ça, comble de l'hypocrisie, il n'y a pas de dispositif national de santé dans les centres de rétention administratifs, où les migrants sont exposés de jour en jour de manière permanente au risque de contracter la Covid, où surviennent des clusters de manière hebdomadaire. Alors à côté de ça, on ne va pas protéger les migrants en centre de rétention administrative de contracter le virus, mais par contre, on va les condamner, on va les envoyer en prison parce qu'ils ont refusé un acte médical, refuser le dépistage du test PCR. Je vous laisse le soin de réfléchir, le soin de voir l'idiotie de notre belle, douce France.
Merci beaucoup Magali pour cette revue de presse et ce retour qui replace cette émission dans l'actualité liée à la détention. Et avant de poursuivre, restez avec nous amis auditeurs et auditrices, on vous laisse digérer toutes ces informations avec cette petite pause musicale bien méritée. On vous retrouve juste après.
Flames up 95. This is basic. I am so fresh. Looking like a million bucks. Chain where you match with the ducks. Roll up the big trucks. Pull up at the spot, y'all see we and I give we be a hug. Set them on a par with the dogs. Keep the TLC with no scrubs. Sitting on dogs, sipping on bub. Nobody do it like we does. BS coming to your speakers. Make you dance all on your sneakers. Nike, Adidas. But me been a class from I was a little fetus. High like I'm with Jesus. But that's just off of the reefer. You wanna get a real buzz? Roll with me, cuz. Because we are
young and we're powerful.
We are
young and we're powerful.
Watch them saw niggas get all up in your guts. Autopiator's head beat them acid reflux. We are
young and we're powerful.
We are
all niggas get all up in your guts. Hot up haters head, give them acid reflux. What?
Fresh out the jungle where the guns go rumble. Ninjas tumble, never stumble, moving on the humble. Calibers calibrated, fade the mighty jumbo. Buckle in, cook it up, taste the spicy gumbo. Shrimp and crab, my collab, watch board abs now. Daddy Van, keep the stash, acting bad. Buck 'em down, still I keep Shalom pow. Young Mao Mao, tune to the soul out. Sentinese, trim tree, mass amount to these. For my G's and my queens, we should all be free. I feel courageous, I'm on my game. Spit the holy name, trained all the love supreme. They don't see where I be, metropolitans. Chocolate and vanilla strawberry lanes. I'm spitting flames like I ought to be. I'm young and powerful and you can feel it in your arteries.
We are young and we're powerful.
We are
young and we're powerful.
Watch dance all niggas get all up in your guts. Hot up haters head, get them acid reflux. We are
young and we're powerful.
We are
young and we're powerful.
Watch dance all niggas get all up in your guts. Hot up haters head, get them acid reflux.
Filled with electrolytes and we charge by ions. Walking like I am forever on the road to Zion. Break bread, chop the snake head, cut the python. Nullify skull and bone, squash Illuminati icon. Five strong, L-A-U-K to Oakland. With flights on the regular, the life of a veteran performer. I'm coasting. Our careers are longer than most of them that's boasting. Shish kebab and roast them. I'm nice, man, I'm ice, man. Spit so cold, I froze them. Miss honey's in my ice cream truck. I'm trying to console them with chocolate kiss. Whether I'm holding a pistol, a fistful of dollars, won't let ballers control them. I'm token. Yeah, I got that chronic in my lungs. With that black fist, panther pride, powerful and young. We exceptional, blessed with the flow, flowers in the sun. The transfer of power to people, now it is begun. Start, cause we are
young and we're powerful.
We are
young and we're powerful.
Watch dance all niggas get all up in your guts. Hot up haters head, get them acid reflux. We are
young and we're powerful.
We are all niggas get all up in your guts. Autopaters head getting acid reflux. We are
fresh like the Prince of Bel-Air. Smell the marijuana in the air. Call me young debonair. I got a dollar in my pocket, still I swag like a millionaire. Everybody look at us and stare. We are diva, this king round here. None of them compare. I'm coming for my throne. You better get the hell up out of there. All spare in love and warfare. Me still account money from last year. Them not in a me league, not near. Everybody know what we put the cash in a cash mare. Them a actor, Mad Sinclair. But me know say them not sincere. I thought someone cool up, yes you not as sincere. Hold up, let's get one thing clear.
We are
young and we're powerful.
Yes, we are
young and we're powerful.
Watch dance all niggas get all up in your guts. Hot up haters head, get them acid reflux.
We are young and we're powerful.
Yes, we are
young and we're powerful.
Watch dance all niggas get all up in your guts. Hot up haters head, get them acid reflux.
When that mark get cut back, boy snap back, get flick back, kick back, make your seat back. Fool a better, you kick back, let's a gun chat in your gal back. Teeth them long like me swag. Man, oh, you a disaccord, they take no chat back. It top, it take off like a 15, when me send for the milli 14 and clap. Black out your mark, where the mark, where me slap. Shot in a head, back, face, one lap. Click it, clack with the clap. Beat and fire with the shot in a stop. Hey, it top, it take off like a 15, when me send for the milli 14 and clap.
Midi au Métard, l'émission qui écarte les barreaux.
Sur Prune 92 FM et sur le www.prune.net.
C'était Young and Powerful de DJ Vadim et sa fine équipe. Vous êtes toujours dans Midi au Mitard sur Prune 92 FM. Aujourd'hui, on vous parle de prison et de migration. Et nous poursuivons sur ce thème avec toi, Mathieu, qui revient avec nous avec le thème clivant des périodes électorales. On t'écoute.
Oui, avec un thème qui revient régulièrement dans la presse, un peu tous les ans, en fait, ou même particulièrement en cas de période électorale, la surreprésentation des étrangers dans les prisons. C'est effectivement un constat. Les étrangers incarcérés sont plus nombreux que dans l'ensemble de la société. Certains y voient les conséquences d'une prédisposition à la délinquance, et évidemment, la réalité est tout autre. Les données du ministère de la Justice indiquent qu'au mois d'avril 2020, il y avait 65 000 détenus dans les prisons françaises, dont 23,5% d'étrangers. Donc on compte les hommes ou les femmes n'ayant pas la nationalité française, y compris les apatrides ou les personnes dont la nationalité n'est tout simplement pas connue, alors qu'on ne compte que 7% d'étrangers dans la population française. Leur provenance peut être répartie en trois grands groupes. Donc on a un tiers qui provient des pays d'Europe, un autre tiers des pays du Maghreb, anciennement colonisés par la France, donc Algérie, Maroc, Tunisie, et le dernier tiers qui vient d'autres pays, notamment d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie. D'après les travaux de Virginie Gautron, qui est une chercheuse et maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles à l'Université de Nantes, qui est citée par l'Observatoire international des prisons, pour un même délit commis par un étranger ou par un prévenu de nationalité française, un étranger a 3 fois plus de risques d'être jugé en comparution immédiate, 5 fois plus de risques d'être placé en détention provisoire et 8 fois plus de risques d'être condamné à de la prison ferme. Alors, il y a deux raisons majeures qui peuvent être avancées. Les personnes étrangères sont essentiellement issues de classes sociales les plus pauvres, elles-mêmes surreprésentées dans l'espace carcéral, et les réflexes judiciaires constatés à leur égard, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On va y revenir. Les personnes étrangères sont essentiellement issues de classes sociales les plus pauvres, effectivement, comme je disais. On peut constater que l'immense majorité des condamnations des étrangers concernent aussi des délits. Comme l'ont démontré plusieurs recherches en sociologie, cela est essentiellement à mettre en lien avec le milieu social dont proviennent la plupart des populations immigrées. Ainsi, Laurent Mucchielli et Barbara Joannon écrivent dans un billet publié en septembre 2020 que la délinquance des immigrés, dont les étrangers, et de leurs descendants est d'abord une délinquance de milieu populaire, une délinquance de pauvres entre guillemets, fortement liée aux conditions de vie dans les quartiers populaires. Quand on observe effectivement les statistiques de la délinquance, on remarque que les infractions sont essentiellement causées par des attributs socio-économiques précaires qui concernent en particulier des besoins de subsistance plus qu'autre chose. Par exemple, en 2018, ils sont responsables de plus de 27% des vols et des conduites sans permis. De plus, faute de posséder des papiers en règle ou de bénéficier d'un réel droit au travail, une partie considérable d'entre eux souffre d'une absence de revenus légaux. Du fait également que cette délinquance est plus visible, elle est particulièrement sujette aux procédures de flagrant délit, et donc ils font davantage l'objet de poursuites. Une enquête publiée en 2013, à nouveau par Virginie Gautron, démontrait également que les personnes nées à l'étranger avaient 3 fois plus de chances d'être jugées en comparution immédiate que les personnes françaises et près de 5 fois plus d'être placées en détention provisoire. Par exemple, au 1er juillet 2020, 40,9% des ressortissants étrangers détenus étaient en détention provisoire contre 31% de Français. À titre de comparaison, si le ratio condamné-prévenu des étrangers était identique à celui des Français, leur proportion totale en prison tomberait de 23 à 20%. Elle expliquait toutefois en 2015 à l'Observatoire international des prisons qu'on ne peut pas en déduire que les magistrats discriminent volontairement les personnes étrangères. En fait, ce sont plutôt les garanties de représentation, donc là on parle de résidence principale, d'emploi, qui vont le plus nettement jouer dans le choix de procédure. En gros, ces garanties sont souvent jugées insuffisantes lorsque le justiciable présente une situation administrative irrégulière, un emploi non déclaré ou peu d'attache familiale en France. Donc les magistrats vont avoir tendance à plus facilement les incarcérer, tout simplement par peur qu'ils aillent à l'étranger. Et selon l'étude, ces mécanismes multiplieraient par 8 la probabilité d'une condamnation à de la prison ferme. Les infractions commises par des justiciables français sont sanctionnées d'une peine d'emprisonnement dans 22,6% des cas, contre 31,3% pour les étrangers. Et les Français bénéficient deux fois plus souvent d'une peine de substitution, qui est 12% des peines totales, que les non-nationaux. Là encore, la carence de preuves d'insertion sociale, professionnelle ou familiale semble jouer en défaveur des étrangers. Comme je disais, les juges prononçant plus facilement une peine alternative à la prison à l'encontre de personnes considérées comme insérées. La pratique montre enfin que les personnes étrangères rencontrent davantage de difficultés que les nationaux pour bénéficier d'un aménagement de peine. C'était le cas par exemple au 1er janvier 2020, 17% des Français écroués étaient suivis en milieu ouvert, contre seulement 6,4% des étrangers. Ce qu'on voit surtout, c'est que la surreprésentation des étrangers en prison en dit finalement davantage sur le fonctionnement des institutions judiciaires que sur l'état de la délinquance des ressortissants non nationaux. Par exemple, à la période de juillet-octobre 2020, qui a connu une augmentation sans précédent du nombre de détenus étrangers, 8,2% en 3 mois pour une augmentation totale de la population carcérale de 3%. Ce sursaut, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas dû à des enjeux sécuritaires, mais plutôt à un moindre accès mécanique, un moindre accès aux mécanismes de sortie anticipée qui ont été mis en place pendant la crise sanitaire.
Merci beaucoup Mathieu pour cette chronique concernant la surreprésentation des personnes étrangères en prison. Et pour te compléter, je suggère l'écoute de ces témoignages recueillis par l'émission de radio anticarcérale L'Envolée, propos recueillis la semaine dernière. Donc ce sont les témoignages de deux hommes incarcérés dans le CRA de Vincennes et qui sonnent l'alerte sur leurs conditions de détention plus qu'alarmantes. Je vous laisse écouter ça.
Et du coup là dans quelques secondes, enfin normalement on est censé recevoir un appel d'un prisonnier au centre de rétention de Vincennes. Je rappelle juste vite fait c'est quoi comme tôle, c'est une prison pour sans-papiers. Ça fait partie des plus grosses prisons pour sans-papiers en fait de France. Parce qu'il y a 240 places. Hop, et... allô.
Bonsoir.
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 Salut. Ouais.
Salut, ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, bien, bien.
Du coup, on voulait revenir un peu avec toi sur comment ça se passe en ce moment dans le CRA de Vincennes.
Ouais, bah, dites-moi, je vous écoute.
Ouais, bah là, avant l'antenne, là, quand on se parlait, on avait commencé par les histoires de violences policières.
Ouais.
Est-ce que toi, tu as envie de revenir un peu sur comment ça se passe là en ce moment ? Parce que du coup, juste pour expliquer, dans les centres de rétention, les matons, c'est des flics qui font partie de la police aux frontières.
Déjà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui ont posé plainte contre la police, déjà d'ailleurs. Et
ça donne quoi ?
Des violences. Là, toujours, il y a des violences la nuit. Les gens, ils laissent les gens se bagarrer, tout ça. Entre eux, ils se tuent jusqu'à la fin. Et rien pour... pour les ramener déjà, d'ailleurs, aux Jeux
allemands. Ok. Du coup, en gros, c'est parce que... moi, c'est ce qu'on me racontait récemment. En ce moment, c'est pas mal tendu entre prisonniers au centre de rétention de Vincennes.
Ouais, mais c'est à cause de la police, c'est ça. Hein. Même, ils ne préviennent pas jusqu'à qu'il y a du sang, qu'il y a des blessés. C'est là qu'il vient. Mais après, déjà, c'est pas encore fini les matchs, tout ça, là. Après, dès qu'il finit le match, on va venir. Okay. C'est des bagarres, ça veut dire, c'est des bagarres. Le match, c'est des bagarres. Et moi, j'ai des gens ici qui étaient à l'hôpital à l'extérieur. Ils n'ont pas dit comme quoi aux médecins ici, ils n'ont pas dit comme quoi c'est la police qui l'ont frappé jusqu'à qu'ils sont sortis à l'hôpital pour faire les radios. Tout ça, c'est là qu'ils ont prononcé comme quoi c'est la police qui l'ont frappé. Parce qu'il ne peut pas parler ici. S'il parle d'ici, il va voir pire.
Et du coup, moi, je me demandais, toi, tu sais comment ça se passe pour les plaintes ? Il y a des résultats, genre ?
Ouais, mais il y a des plaintes, mais il y aura jamais du continuation. Hein, toujours, ils mettent le truc en dessous de table.
Est-ce que quand vous faites des plaintes, ils précipitent
les expulsions ?
Non, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a personne qui part, c'est juste volontairement.
Mais faut rien lâcher, parce que tu sais, quand vous portez plainte, c'est souvent les mêmes flics qui sont incriminés la plupart du temps. Et arrivé à un moment, à force d'avoir des plaintes, ils pourront plus défendre ces gens-là, tu vois.
Bah, après, pour te dire, au centre de rétention de Vincennes, par exemple, il y avait une équipe de keufs qui était connue pour être violent au niveau de la fouille.
Moi, je suis d'accord avec vous.
Et tu vois, en fait, il y a eu plein de prisonniers, parce que nous, là, ça fait 3 ans qu'on a régulièrement des appels du CRA de Vincennes, et des plaintes, ou même des fois l'IGPN qui s'est déplacé à Vincennes. Le seul truc que ça a amené, c'est qu'il y ait un gars qui soit mis à la fouille, quoi.
Moi, il y a une équipe en particulier qui sont, il y a des agents qui sont très racistes, je m'en fous, ils s'en foutent de ce qu'on les appelle, ils soufflent, ils s'en foutent. Genre.
Je peux te poser une question ? Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que je peux te poser une question ? T'as vu, moi, quand j'étais en prison, et souvent, les matons, c'est souvent les mêmes équipes qui sont violents. Est-ce que c'est souvent... tu sais, il y a les équipes de nuit, les équipes de jour. Est-ce que cette équipe que tu parles, c'est une équipe de jour, une équipe de nuit ? Est-ce que ça tourne ?
Okay. Et quand je les ai appelés parce que j'étais en train d'être agressé, l'agent, il est venu, il a dit « Ouais, c'est vous ?» Et il me dit « J'entends souvent parler de vous. » Et parce que je sais pas me défendre, et genre ça le saoule en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, j'ai compris, ouais. Ça, en vrai, ça le saoulait de venir et de se déplacer pour. Mais c'est, ça aurait été toi ou c'est toi ou quelqu'un d'autre, c'est la même, ça aurait été le même discours en vrai. Hein, tu vois.
Oui, c'est une équipe en particulier et vraiment c'est genre c'est une équipe, on dirait des beaufs un peu genre.
Ouais, il y en a pas mal à Vincennes, hein, des keufs qui ont l'air de beaufs. Et moi je me demandais, enfin bon, c'est un peu une question.
Ils sont déjà mal poulés déjà.
Et quand les mecs ils parlent pas français et tout, franchement les pauvres. Moi, tu vois, ici j'arrive à un peu faire leur courrier et tout. Je peux si je suis là et que je vois que genre il y a quelqu'un qui parle pas français, il peut me demander quelque chose. Je vais lui dire, je vais le faire parce que voilà, c'est un frère, on est dans la même galère, tu vois. Mais je vois leur tête et tout. Franchement, c'est du racisme, genre mais caché, tu vois.
Ouais, tu les déranges un petit peu, les flics, ça les...
Ouais, ils se moquent d'eux, ils se moquent de nous.
Ils sont mal...
Genre un mec, il va demander un truc, il va pas pouvoir s'exprimer, genre il va faire « je comprends pas », et il va passer à autre chose, il va le laisser comme ça dans sa galère.
Heureusement, moi, je l'ai traduit.
Tout le temps.
Ouais, du coup, heureusement, il y a la solidarité entre prisonniers, quoi.
Ouais, mais il y en a certains solidarités, ça, j'avoue. Mais il y a certains, comment dirais-je, chacun comme au pays ou quoi.
Oui, c'est ouais, beaucoup dans les par exemple les Sénégalais, les Ivoiriens, les Marocains, les Algériens, on est entre eux, chacun est entre eux, mais tu vois, après s'il y a des histoires, il y a comme partout, t'as vu, il y a des histoires, genre, même dehors il y a des histoires.
Mais tu sais, en prison c'est pareil, hein, ça, mais ça c'est eux qui le veulent, en vrai, ça les arrange
ils savent que s'ils font des histoires, il va rien se passer.
Ouais, ils placent les gens par communauté, tu captes, même les chambres généralement, ils les placent comme ça, non?
Oui.
Déjà, les policiers sont déjà vulgaires, déjà. Entre eux, ils parlent de...
Mais c'est un truc de malade. Hier soir, je t'ai bien bouffé la chatte, mais d'ouf.
Ouais, je te bouffe la chatte. Bisous, tu veux un bisou.
Bisous, ma chérie.
Devant les détenus.
Ouais, le PD, il voulait quoi? Mais des trucs comme ça.
Je te confirme, c'est vraiment des vieux beaufs. Je te confirme.
Des trucs comme ça, tu vois.
Et la nourriture, je dis même pas...
Accompagné de vieux dégueulasses.
La nourriture, c'est souvent la date d'hier, le périmé. Dépassé.
Il change même la date, du coup.
Des fois, tu vois le truc, il est déjà ouvert. Son côté, l'étiquette, elle est décollée, il change la date. Trop bizarre.
Et déjà,
même nous, on se regarde, on mange pas. On se dit, on mange pas, ça, on ne mange pas et tout.
On mange juste pour survivre.
On mange juste parce qu'on a faim. On mange parce qu'on a faim.
On sait qu'il y a des médicaments, qu'il faut dormir et tout ça, là, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font.
On sait pas d'ailleurs, ce qu'ils font. C'est même pas chaud, on mange froid. C'est même pas chauffé. Dans le micro-ondes, on a mangé froid tout à l'heure.
Bah, tous les jours, c'est même pas tout à l'heure.
Tu vas pour chauffer le truc, ils te disent non. Si je dois chauffer, je chauffe tout le monde. Donc, t'arrives en troisième position, genre ça a ouvert il y a 5 minutes. Au bout de 5 minutes, les trucs, ils refroidissent, tu vois. Bah, eux, ils s'en foutent. Genre, tu vas manger de la purée froide parce que c'est comme ça. Et on est là, on est obligé de manger parce qu'on a faim. On crève la dalle ici.
Ouais, parce qu'il faut rappeler que les horaires de repas... En fait, c'est 18h, parce que comme ça leur permet de passer à l'équipe de nuit et d'avoir moins de keufs qui sont présents, quoi.
Ouais, parce qu'on mange que deux, juste deux fois par jour, c'est tout, hein.
La police, elle parle mal. Elle parle trop mal. Elle parle trop mal, la police. C'est un truc de mal. Là. Déjà, quand tu dis pas bonjour, quand ils passent et tout, ils arrivent, ils regardent mal. Nous, on est là, on est devant la télé, genre... ils viennent en mode...
Et t'éteins la télé, même.
Ouais, bah, c'est qui a changé la chaîne? C'est l'heure des...
Pour regarder leur série de soir et tout ça.
Ouais, la télé, à partir de 2h du matin, elle est éteinte. Tu peux plus regarder la télé. Tu peux plus regarder la télé à partir de 2h du matin. Et ça, c'est l'équipe de beauf, là. C'est eux, quand ils sont là, c'est ça, comme ça, ça se passe.
C'est
comme ça que ça se passe. La nourriture, laisse tomber. Les draps, la propreté, vous savez qu'il y a des pigeons qui dorment dans le drap ou pas? Les pigeons, genre, qui vont mourir, genre, ils sont en fin de vie. Il y en a partout. Vous savez ou pas, ils font caca partout, là.
Ouais, mais même quand tu vas en parloir et tout, là, dans le box, là, enfin, dans leur préfabriqué en étage, là, tu vois des pigeons morts sur le côté de la route.
On n'a pas de gel. On n'a pas de gel hydroalcoolique.
Sérieux, ils ont pas mis de...
Le masque...
Quand tu rentres à l'intérieur,
c'est dès que tu dépasses le portail pour aller dans les trucs à l'infirmerie, et c'est là où on te donne un masque. On n'a pas de masque contre nous.
C'est eux qui vous les donnent, les masques, ou pas?
Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel.
T'as droit à un masque par jour.
T'as accès à la boîte? Est-ce que t'as accès à la boîte quand tu le prends? pour regarder s'il n'est pas périmé. Parce que des fois, il y a des masques qui se sont périmés. Tu sais qu'il y a une date de péremption même pour les masques.
Oui.
Il est fort possible que vous ayez des masques périmés en vrai.
Même la nourriture, c'est périmé. C'est pas.
Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça.
Même les gels, on n'a pas de gel.
On n'a pas de gel. Il y en a, ils sont contrôlés positifs au truc. Genre, il y a un mec, il y a deux jours, ils lui ont fait le test parce que le mec, il voulait rentrer. Bah, il a été contrôlé positif. Il est revenu de l'infirmerie. Il a dit, j'ai le Covid. Genre, il me dit ça à moi. Mais et après, il se pose dans la salle télé normale et tout. Il regarde la télé avec nous, tout ça.
Ah, ils l'ont même pas.
Mais oui. C'est pas normal, ça.
Mais c'est pas normal.
Normalement, il faut qu'on le ramène à l'hôpital. Il faut qu'il soit isolé.
Il faut même pas qu'il soit avec nous. Il aurait même pas dû parler avec moi.
En tout cas, faut le libérer immédiatement, quoi. Aussi. C'est-à-dire, faut pas garder quelqu'un enfermé.
Il me dit, j'ai le Covid et tout. Ils vont m'envoyer dans un truc et tout. Le mec, juste du matin jusqu'au soir, il est avec nous. Et je vous parle de lui, mais il y en a plusieurs qui ont eu le Covid que je connais.
Les gens parlent pas de ça.
On sait qu'ils ont le Covid. Ils ont eu le Covid.
On a oublié le Covid. Il y a un mineur, il est juste à côté, 2004, il est là.
Il y a un mec, il est né en 2004, il est là, il veut l'expulser. Il est mineur.
C'est mineur.
Ouais, ça,
jusqu'à quand hier et avant-hier, j'ai parti à la SPAM pour que je lui dise et communiquer avec la Croix-Rouge parce que lui, ils l'ont déjà fait le test.
Ils ont le droit d'expulser un mineur.
Et tout ça, et de l'os. Ils l'ont trouvé, c'est un mineur de 2004.
Comment ça se fait ? Non, 2004.
Ah ouais.
Ils veulent l'expulser.
Ouais, c'est un truc de ouf parce qu'il a fait les tests osseux, quoi.
Il était au foyer déjà d'ailleurs. Il était au foyer.
Il était au foyer de mineurs isolés.
Et ça, c'est totalement illégal, hein, à la fois d'enfermer un mineur isolé, qui est censé en fait être pris en charge et protégé par l'État.
Mais avec nous, il ne peut pas parler parce qu'il ne parle pas bien français, vous voyez.
Il ne parle même pas, il ne sait même pas ça veut dire quoi, bonjour ou bonsoir.
Bah, en tout cas, plein de force à lui, et voilà, on espère que la Croix-Rouge aussi, de son côté, elle va se bouger, quoi. Moi, je me demandais, parce qu'il reste...
Je suis mineur.
Voilà, il parle, vous avez attendu sa voix.
Ouais.
Il parle
que l'arabe. Ouais, il serait temps que l'ASFAM, là, qui est l'assaut dans le centre.
C'est un égyptien, le pauvre ici, c'est un égyptien, il a un enfant à l'extérieur, il est là, il galère.
Il a un enfant français.
Français.
Il veut le renvoyer, c'est pas normal.
Et moi d'ailleurs, je parle même pas de moi. Moi, je suis marié avec une femme française et j'attends juste mon récépissé déjà d'ailleurs parce que j'ai déjà mes papiers juste pour renouvellement. Et j'ai un enfant de 10 ans. D'ailleurs, il va avoir 10 ans dans le 9 décembre. Et il est scolarisé et j'ai la garde partagée avec la juge du tribunal de familial. Et je sais pas, même ma fille, c'est pas que je suis là, je lui dis je suis en voyage, je travaille et tout, c'est pour ça que je lui parle. Avant que je le parle avec elle, il me dit, sa maman, il m'a dit comme quoi, il t'appelle et tu le réponds pas. Il a dit comme quoi, il est où mon papa, il me répond plus, il m'aime plus, pourquoi il me répond pas? Alors ça me fait mal.
Là, parce que ça fait longtemps qu'on est là, nous, en France, vous voyez ce que je veux dire? Lui, ça fait, je sais pas combien de temps il est là en France. L'Égyptien, il a des enfants en France. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un qui a des enfants. Normalement, c'est interdit là, de parler des droits de l'homme.
Ouais, mais la loi, maintenant, elle permet ça.
Il n'y a pas de démocratie ici. Tu parles de la démocratie.
C'est interdit des droits de l'homme de séparer une famille. Rien que ça, déjà. Comment tu peux mettre quelqu'un au cran alors que la personne, il a des enfants en France. Et il prouve qu'il a des enfants. Il ramène tous les papiers. Mais la femme, eux, ils falsifient les papiers. Il donne pas les papiers à l'avocat. Moi, mon avocat, il m'a dit, j'ai pas ton adresse, j'ai pas les papiers de ta famille.
Ah, moi, d'ailleurs,
Les papiers, je les ai ramenés à la femme. Et la femme, ils ont mis dans le truc, et genre, ils l'ont envoyé, et l'avocat, il les avait pas. Ça veut dire, quand je suis passé devant le juge...
Vous avez pas tous les éléments. Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vous parle de moi, et l'Égyptien, c'est la même chose. Les papiers de sa fille, de son fils, les extraits de naissance, ils ont pas donné, ils donnent pas. C'est ça quand je vous dis falsifie. Ça veut dire qu'ils donnent rien.
Ouais, ils sont complices, quoi. Ils gardent les infos pour eux. Et il faut juste dire pour les gens qui écoutent.
Rien.
C'est qu'en fait.
J'ai les vrais de famille. J'ai les vrais de famille avec ma femme française. J'ai le jugement de la garde partagée de mon enfant. J'ai un appartement dans le 16e arrondissement avec ma femme, le donnant. Dans le 16e arrondissement, j'ai l'électricité, le donnant, j'ai la banque, le compte bancaire, le donnant. Ils veulent quoi d'autre? J'avoue, c'est eux qui sont en train de construire des monstres ici, là. C'est pas... Non, on n'est pas des monstres, on est des humains. On a des cœurs, on a des sangs qui coulent dans nos veines.
Ils nous laissent entretuer entre nous. Je vous jure, ils nous laissent entretuer entre nous. C'est vrai, c'est réel. Il y aura une bagarre, c'est nous, on va s'occuper de faire la sécurité entre nous. Sinon, il y aura des morts.
Ah, après, ça, c'est ça qu'ils cherchent, hein, c'est de vous diviser.
On est obligé de rentrer dedans. Et quand la police, il regarde au bout de 10 minutes, c'est là qu'ils viennent. Et les personnes, ils saignent, le nez, il est cassé, la dent, elle est cassée. Vous voyez ce que je veux dire? Ils attendent que, genre, il y ait du sang pour venir.
C'est quand le match est fini.
Et après, c'est ça qu'ils disent, le match, il est fini. Et pour les papiers, moi et un autre, ils font pas signer les papiers. Ils font pas signer les papiers. Les gens qui savent lire, ils leur font signer des papiers bizarres. Moi, j'ai lu que il y a un Algérien, il m'a montré un papier comme quoi, oui, j'accepte de retourner. Vous voyez le truc pour retourner là?
Ouais, l'aide de retour volontaire.
Vous voyez de quoi je vous parle? Le papier pour retourner de manière.
Ils signent, ils ont dû raconter un mytho.
Signer ça, pour qu'ils sachent, sans qu'ils sachent.
Ah, c'est honteux.
Ils savaient pas c'était quoi. Après, il m'a dit, ouais, et tout, et c'était mon cours dans ma chambre et tout. Il dit, ouais, moi, je lui montre les papiers que j'ai, tout ça et tout, ouais, que j'ai travaillé, mes fiches de paye, tout ça et tout. Il montre ça. Après, il me montre le papier, je dis, tu veux rentrer au bled? Il me dit, non, moi, je vais pas rentrer au bled. Je lui dis, mais c'est le papier pour rentrer au bled, ça. Ils vont te donner de l'argent et tout, pour rentrer au bled et tout, quand tu vas arriver au bled. Il me dit, non. Je dis, ben, si, t'as signé. Il me dit, non, j'ai jamais signé ça. Et je dis, ben, si, frère. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Moi, j'ai fait une demande de réfugié. Ma demande, elle est arrivée. Ils m'ont mis refus de signer, ils m'ont envoyé dans le coffre, ma demande, ma réponse. Ça veut dire, pour faire le recours, la réponse, j'ai attendu un mois. Les gens de la femme, ils m'ont dit, wesh, la réponse, pourquoi tu l'as pas encore? J'ai dit, bah, je sais pas. C'est un jour, j'ai dit, wesh, je vais aller au coffre, je vois, il y a une enveloppe dans mon coffre. Et c'était ça. Il y avait marqué refus de signer. Alors qu'ils m'ont jamais demandé, ils m'ont jamais montré la réponse. C'est que des trucs comme ça pour te... C'est une secte, on dirait. Je sais pas comment ils travaillent, mais ils veulent pas travailler. Ils font du n'importe quoi avec les êtres humains qui sont ici. Je vous jure. On mange mal. Je vous jure, on mange mal.
On n'est pas des humains.
Moi, j'ai travaillé dans la restauration. La chaîne du froid, elle est pas respectée. La nourriture, elle passe devant nous tous les jours. Elle passe devant nous. Le pain, il est dans des cagettes.
Les gars, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Ça fait chier. Il nous reste 2 minutes d'antenne et va falloir qu'on rende. Voilà, désolé d'avoir fait vraiment si court et merci d'avoir pris le temps de témoigner. Mais on vous rappelle après. Voilà, on doit vous laisser, mais on vous rappelle après. Plein de force à vous, plein de force au poteau qui a parlé rapidement. Je suis désolé, on va pas à autre chose, on vous rappelle tout à l'heure.
Allez aux droits de l'homme, allez s'il vous plaît à l'ONU, à l'autre européen, là. Comment on appelle ça, là?
On diffuse vos paroles et tout ça, et puis vas-y, on en reparle tout à l'heure. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on rende antenne dans une minute. Plein de force à vous, à tout à l'heure. Ciao, ciao.
Nothing like this had ever happened.
Midi au mitard sur Prune 92 FM.
Des prisons et des hommes.
Et midi au mitard, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ce thème vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Nous-mêmes, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dimanche 2 janvier prochain avec une nouvelle émission, avec un nouveau thème. En attendant, retrouvez-nous en podcast sur prune.net, rubrique Midi au Mitard et sur notre Instagram et sur notre Facebook. Nous vous disons au mois prochain. Bon dimanche sur Prune.
Problème.